VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bienvenue dans cette édition spéciale du 3 novembre 2020 sur les élections américaines. Eric Maniakidza en votre compagnie. Des dizaines de millions d'Américains se rendent aujourd'hui aux urnes pour choisir leur futur président. Près de 5 millions d'Américains ont déjà voté par anticipation, en personne ou par correspondance. Dans un instant, nous retrouvons nos envoyés spéciaux dans certains bureaux de vote. Nous aurons également les témoignages de certains électeurs ainsi que nos analystes. Les Américains votent depuis ce matin pour élire le futur locataire de la Maison-Blanche. Ils doivent aussi renouveler 35 sièges au Sénat et 435 sièges de la Chambre des représentants. À Arlington, en Virginie, Arzuma Compaoré est allé suivre le déroulement du scrutin.
À l'instar de tous les autres bureaux de vote, c'est dès 6 heures du matin que la bibliothèque centrale d'Arlington a ouvert ses portes aux électeurs américains. Une ligne d'une quarantaine de personnes attendait déjà pour exprimer leur choix, mais il faut dire que l'affluence depuis lors a considérablement ralenti. Seuls, en famille ou entre amis, les votants arrivent de façon sporadique. Jusque-là, selon les chiffres que nous avons obtenus des officiels sur place, environ 300 personnes ont voté ici à la mi-journée. Un peu plus tôt, nous avons pu parler à un couple d'amis, l'un camerounais d'origine, l'autre iranienne d'origine. Tous deux chérissent leur amitié vieille d'une vingtaine d'années, malgré leur choix divergent de candidat. Pour Lili Raseki, qui a voté par anticipation il y a 3 jours, Trump est un danger pour l'Amérique. Elle dit que plusieurs membres de sa famille ont été infectés par le nouveau coronavirus et qu'un d'entre eux en est même mort. Pour elle, seul Joe Biden peut empêcher que plus d'Américains ne succombent à ce mal. C'est pourquoi elle a voté pour lui. À côté d'elle, son grand ami Jocelyn Chakunte, qui est un pro-Trump, dit qu'au-delà de ses politiques, c'est l'homme même qui l'aime. Je vous propose de l'écouter.
Mais le candidat Trump, c'est une personne qui est très facile à écouter et qui est bien à écouter. Et on peut d'abord dire entertaining, c'est-à-dire il est, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais je peux dire qu'il est amusant ou bien s'il est drôle en quelque sorte. Oui, c'est une personne que tu veux avoir autour de toi parce que il raconte des histoires, il te fait rire et il te donne de l'espoir. Donc c'est ça. Et puis aussi il parle comme un Africain en fait. Il agit même comme un Africain, vous voyez, parce que si tu parles comme un Africain, tu agis comme un Africain et tu fonctionnes un peu comme un Africain, tu es un Africain. Par exemple, il parle avec hyperbole, c'est-à-dire qu'un Africain ne te dira jamais qu'il, disons par exemple, il conduit sur l'autoroute et il dit que je conduisais à une vitesse de 60 km par heure. Un Africain va te dire je conduisais à 1 million de kilomètres par heure. Mais tout le monde sait très bien qu'il n'y a pas une voiture qui conduit à 1 million de kilomètres par heure. Mais quand un Africain exagérait de cette manière, c'est pour comprendre qu'il conduisait très 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 vite. Et c'est un peu ça qui me plaît dans Trump, parce que il exagère pour faire un point, pas pour essayer de divertir ou bien pas pour essayer de cacher la vérité, mais pour faire un point. Et ça c'est assez drôle. Ça me plaît dans ce candidat. Et puis aussi, c'est un homme d'action, comme on dit, un man of action. Beaucoup de gens parlent de choses, oui, on fera ceci, on fera cela, oui, je veux aussi ceci, je veux aussi cela, mais ils veulent tout en même temps. Mais à un moment, dans la vie, on ne peut pas tout avoir en même temps, et à un moment, il faut bien trancher. Et il tranche, et il prend une décision. Et c'est un homme d'action, et ça, c'est vraiment merveilleux qu'on puisse avoir ça, un politicien comme cela. Oui.
Arzuma Compaoré a recueilli ses propos. Nous restons dans la région de Washington. Nathalie Barge a recueilli la réaction du docteur Sona Konaté, américaine d'origine guinéenne à Clarksburg, dans le Maryland. Elle est installée aux États-Unis depuis 17 ans. Elle a voté par courrier depuis 6 semaines et a reçu hier la confirmation de la validation de son vote.
J'ai déjà voté depuis un bon bout de temps, peut-être depuis 6 semaines. J'ai déjà voté. Ces élections ont un enjeu très, très particulier, tout particulier, je pense, pour le monde entier et particulièrement pour moi. Je ne voulais pas prendre de risques et ne pas pouvoir voter le jour des élections. C'est pour ça que j'ai eu l'opportunité de voter par courrier et ce que j'ai fait avec ma famille.
Est-ce que vous aviez déjà voté par courrier auparavant ou est-ce que c'est la première fois?
Jamais. Et d'ailleurs, je ne suis pas, une fan du vote par courrier parce que c'est pas seulement le vote, en fait, c'est le fait d'aller voter personnellement, rencontrer les gens dans la ligne d'attente. Tout ça, ça fait partie pour moi du plaisir aussi d'exercer mon droit. Voilà, c'était vraiment tout nouveau pour moi, tout particulier. Et ce n'est que hier, en fait, que j'ai reçu la confirmation par courrier électronique que mon vote a été compté. Et là, je suis vraiment satisfaite. Et là, maintenant, je sais que je serai parmi tous ces millions de voix au suffrage universel.
Quelles sont vos attentes donc pour cette élection présidentielle?
J'ai des attentes toutes simples. Je pense que ce pays, les États-Unis d'Amérique, qui est aussi mon pays d'adoption en ce moment, j'ai vu depuis presque 17 ans maintenant, ce pays a, je pense, le souci fondamental d'être une terre d'accueil, une terre d'asile, beaucoup de citoyens de ce monde-là. Et donc, c'est cet esprit-là que nous aimons de l'Amérique. Cette idée-là, que n'importe qui vient dans ce pays-là, quelle que soit votre religion, appartenance ethnique, spirituelle, vous avez la chance de vous intégrer et de faire partie aussi du succès, du progrès de cette nation-là. Et donc, en fait, c'est cela qui me tient à cœur. Ce bien fondamental, cette vertu fondamentale de citoyenneté, d'appartenance à un groupe, à une nation démocratique, libre, que nous voulons tous pour ce pays-là. Donc c'est pour cela que c'est avec un grand, grand plaisir cette année que j'ai voté. Plus que jamais, je pense, dans ma vie de citoyenne, j'ai exercé ce droit fondamental. Et donc, vraiment, c'est avec beaucoup d'espoir, beaucoup de foi que nous espérons que ce soir, le candidat qu'on a choisi vraiment pourra être élevé au plus haut poste politique de cette grande terre qui sont les États-Unis d'Amérique.
À New York, nous retrouvons Dilly Dico qui se trouve à Brooklyn. Dilly, comment ça se passe?
Bonjour Eric, je me trouve à Brooklyn, l'une des 5 subdivisions administratives de la ville de New York, à l'école publique numéro 22, transformée pour l'occasion en bureau de vote. Les électeurs arrivent petit à petit, l'idée ici en raison de la pandémie est de ne pas créer d'attroupement. Et de façon générale, dans l'État de New York, environ un électeur sur 5 a voté en personne pendant la période de vote anticipé qui a duré 9 jours ici, soit 2,5 millions de personnes. C'est d'ailleurs la première fois que l'État de New York utilise ce système lors d'une élection présidentielle. Cela représente environ 18% des 13,5 millions d'électeurs inscrits dans l'État de New York. À ce nombre, il faut aussi ajouter plus d'un million de personnes ayant voté par correspondance, mais tous les suffrages n'ont pas encore été dépouillés. Ce matin, à l'ouverture des bureaux de vote, 26% des New-Yorkais avaient déjà voté. Il faut savoir que New York est un État dominé par les démocrates. Les analystes prédisent donc ici une franche victoire de Joe Biden. Mais pour l'instant, nous ne pouvons pas savoir, car à New York, les premiers bureaux de vote ferment à 21h. Dans cette ville qui a été l'épicentre de la pandémie de coronavirus et où les mesures de confinement ont été très strictes, l'inquiétude par rapport au Covid-19 est vraiment palpable, notamment avec le nombre d'infections qui grimpe à nouveau ces jours-ci. À Manhattan, les vitres des magasins sont barricadées, les autorités et les commerçants new-yorkais craignent des violences à l'annonce des résultats ou dans la nuit lorsqu'une tendance va se dégager. Mais pour l'instant, les rues sont calmes. Voici donc la situation à New York.
Merci à Dilly Dico, New York, un État qui vote traditionnellement démocrate. Nous aurons des explications tout à l'heure de notre analyste Claude Porcella. Mais nous restons d'abord à New York pour retrouver Blaise Sorgho, citoyen américain d'origine burkinabé, joint par Yacouba Ouedraogo.
Moi, c'est Blaise Sorgho, citoyen américain d'origine burkinabé, et je suis en train de faire le rang présentement pour voter. Et pour cette élection de 2020, aujourd'hui même, et je suis impatient de voter le président Biden. Je vais voter pour la première fois démocrate. Et de ma culture, je suis républicain, mais cette fois-ci, je vais voter démocrate. Et à cause de la politique de l'immigration du président sortant Donald Trump, et une politique qui est vraiment hostile envers les immigrants, envers nos frères et sœurs, et nous l'avons ressenti en tant que paralégal dans les formulaires de demande d'asile où beaucoup d'éléments sont mis en œuvre pour nuire à l'immigration, pour nuire au changement du statut des immigrants. Voilà, merci et bonne journée à vous.
Vous l'avez donc suivi, la diaspora africaine vivant aux États-Unis se mobilise aussi pour ce scrutin. Abdourahmane Dia, adjoint dans l'Iowa, un état pivot. Claude Marté, américaine d'origine togolaise.
Effectivement, je viens de voter tôt ce matin. Les bureaux de vote étaient ouverts à partir de 7h du matin et ils seront fermés ce soir à 21h. Et comme d'habitude, beaucoup préfèrent voter tôt le matin. Et c'est ce que j'ai fait aussi. J'ai voté ce matin à 7h15. J'étais vraiment surprise parce qu'il y avait un très grand nombre. Et j'ai beaucoup apprécié qu'ils ont respecté les mesures barrières. Et on était tous à 6 feet. Et tout le monde doit porter son masque. Et voilà, oui, j'ai voté ce matin. Je suis vraiment contente que ça s'est bien passé.
Donc vous préférez voter le jour du scrutin plutôt que de voter par anticipation? Y a-t-il une raison particulière? Est-ce que c'est l'ambiance même du vote le jour du scrutin ou...
Oui, je préfère aller moi-même voter, voir ce qui se passe. Et ça aussi me donne non seulement l'opportunité de voir comment les choses se passent, l'ambiance et tout. Puisque j'avais eu à travailler dans les bureaux de vote avant, juste pour savoir comment les choses se passent ici au niveau des États-Unis. Et oui, je préfère aller voter. Et le coronavirus ne va pas m'empêcher de sortir. Et l'essentiel, c'est de prendre les mesures barrières.
L'Iowa où vous vivez est un état pivot et un état important malgré ces 6 grands électeurs. Hein. Parlez-nous un peu du vote dans l'Iowa.
Je vis dans l'Iowa qui est un état caucus. Pas plus tard que deux jours, il y a le président Donald Trump qui était ici le samedi passé. Et il y a aussi son homologue, Joe Biden. Les deux étaient ici à quelques jours des élections. Et ce qui prouve encore plus que l'état d'Iowa est un état décideur.
Mais pour terminer, parlez-nous rapidement du vote des Américains qui sont d'origine africaine, comme vous.
Oui, effectivement, je parlerai des Africains et j'ai toujours l'habitude de parler à nos frères et sœurs africains, de toujours voter, surtout ceux qui ont le passeport américain, de tout faire pour voter. Je les encourage à le faire. C'est très important parce que beaucoup ignorent leur puissance, le poids de leur voix. Vous savez, nous avons trop de problèmes en Afrique. Et souvent, on se lance dans des lobbies, on demande des aides aux gens. Mais en échange, nous devons aussi apporter quelque chose. Et c'est plus facile d'approcher nos élus. Et comme je le fais d'habitude, d'approcher de nos élus pour savoir ce qu'ils font. Alors, quel est leur plan pour nous, les immigrants, non pas seulement les Africains-Américains ici, mais nous, les immigrants spécialement africains.
Voilà, l'ancien vice-président Joe Biden, il est rival du président Donald Trump dans ce scrutin, non pas homologue, comme le disait cette électrice dans l'Iowa. La Géorgie, avec ses 16 grands électeurs, est d'habitude dominée par les républicains, pourrait basculer du côté démocrate selon les sondages. Mohamedou Oumfa a joint Daouda, un citoyen américain d'origine camerounaise qui vit précisément à Milton. Suivez.
Je vis ici en Géorgie, plus précisément dans le comté de Fulton. Je vis à Milton, c'est au nord de Atlanta. J'ai effectivement voté il y a un peu plus de, je crois, 2 semaines. C'était la 2e semaine des élections anticipées. Et j'ai pris la peine, je vous dis, d'amener mes deux filles avec moi. Elles sont tout petites, elles ont 10 et 15 ans. Et vous voyez, c'est très important dans ce contexte de commencer à inculquer cette notion aux enfants pour qu'ils puissent prendre la relève, parce que beaucoup d'enfants ici, beaucoup de citoyens ne s'intéressent pas à le devoir des citoyens, parce que vous voyez, beaucoup de personnes disent Biden va gagner, Biden va gagner, ou Donald Trump va gagner, et au final, personne ne part voter. Donc, ce qui fait souvent que le sondage qu'on reçoit, c'est pas finalement ce que on voit dans les urnes. Bon, mais je crois que cette fois-ci, Biden va gagner, parce que l'écart dans le sondage qu'on voit cette année, c'est pas ce qu'on a vu en 2016, parce que beaucoup de gens pensent que on peut se retrouver avec la surprise de Donald Trump des élections de 2016, mais je crois que l'écart de sondage cette fois-ci est tellement grand que même avec la marge d'erreur, Biden sera toujours gagnant. Et je crois que voici, Biden va vraiment gagner. Ici, en Géorgie, on a reçu Barack Obama hier, et il est venu parce que la Géorgie, longtemps avant, a été démocrate. Bon, mais depuis plus de, depuis environ 10 ou 15 ans maintenant, ou même 20 ans, on vote toujours républicain ici, mais cette fois-ci, les démocrates sont en train de vouloir vraiment encore reprendre l'État, parce que lors des élections du gouverneur de cet État de l'année passée, ça a été tellement serré que on a failli aller, les démocrates et les républicains ont failli aller au tribunal pour se faire départager. Bon, mais finalement, les républicains ont gagné.
Rien n'est encore gagné avant le verdict des urnes. Il faudra attendre le dépouillement des voix dans tous les bureaux de vote. Dans un instant, nous retrouvons notre analyste.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En ligne, Claude Porcelin. Bonsoir.
Bonsoir.
Claude, voilà, la participation s'annonce historiquement élevée, avec près de 5 millions d'électeurs qui ont déjà voté par anticipation avant mardi, donc avant aujourd'hui, par courrier ou en personne, soit plus de 70% du nombre d'électeurs total de 2016, mais il faudra attendre la fermeture des bureaux de vote aujourd'hui pour savoir combien d'électeurs se sont déplacés. Comment expliquer ce record?
Je pense que c'est dû à la personnalité de Donald Trump. Beaucoup disent que cette élection, finalement, c'est un référendum sur le président. Il est très contesté, il a sa base très solide, 40-45%, mais il n'a pas attiré à lui les 6% dont il a besoin pour gagner. C'est assez difficile à expliquer, mais en fait, si on regarde dans d'autres pays, c'est souvent la personnalité qui compte plus que le programme. Et on voit, du fait de la division très profonde, de la polarisation des Américains, que chacun a choisi son camp et d'une façon bien déterminée, et il est donc décidé à obtenir la victoire autant que possible d'une voie légale par la voie des urnes, bien sûr, mais il y a des tensions très nettes et je dirais que il y a une mobilisation beaucoup plus grande que lors des années précédentes, en raison justement de ce président qui est tout à fait inhabituel, qui n'a pas respecté les traditions. Donc ceux qui le soutiennent, pour eux, c'est très bien, c'est parfait. Pour ceux qui n'apprécient pas son style, évidemment, ça ne va pas et il faut le remplacer. de part et d'autre. Il y a une énergie qui n'existait pas dans les élections précédentes.
Le président Trump se définit lui-même comme un outsider. Notre envoyé spécial à New York nous disait que Joe Biden devait l'emporter là-bas. C'est un État qui vote traditionnellement démocrate. Quel est, par exemple, un autre État où le vote du président Trump est acquis d'avance? Mm-hmm.
Écoutez, tout se jouera cette année probablement en Pennsylvanie. Trump avait gagné le Michigan, le Wisconsin et la Pennsylvanie. Si Biden a réussi à gagner la Pennsylvanie, il sera élu. S'il ne gagne pas en Pennsylvanie, la course reste très serrée. Alors il faudra qu'il trouve une majorité dans d'autres États comme la Géorgie, la Floride ou la Caroline du Nord ou encore même l'Arizona.
Là, vous parlez des États pivots.
Ce sont les États pivots, absolument, oui.
Mais il y a des États qui ne basculent pas.
Oui, il y a le mur bleu, donc ce sont tous les États qui traditionnellement votent démocrate, et puis le mur rouge qui vote républicain. Le mur bleu, c'est surtout dans le nord et le centre. Le mur rouge, c'est surtout dans le sud et le sud-ouest. Maintenant, si l'on va d'une côte à l'autre, la Californie vote à chaque fois démocrate, et c'est exactement la même chose à New York.
Restez avec nous, Monsieur Claude Porcela. Nous allons parler maintenant du système du collège électoral qui a maintes reprises pris au dépourvu le système du vote populaire général. Et ce système joue un rôle crucial dans la détermination du gagnant. On va écouter Aristide Sidibé, journaliste basé à Houston, dans le Texas. Il a été joint par Modibo Dambélé.
L'Amérique est un système fédéral. Il y a 50 États. Le président et son vice-président sont élus de manière indirecte par un système de collège électoral qui est basé sur les États ayant un total de 538 collèges électoraux. Pour gagner la présidence américaine, il te faut 270. Donc, ce n'est pas le système populaire qui élit le président. Chaque État a des collèges électoraux et c'est en fonction de cela que tu deviens président. La première, c'était quand le vice-président Al Gore avait gagné le système populaire, mais George Bush a gagné le collège électoral. Et en 2016, l'actuel président Donald Trump a gagné le système électoral. Hillary Clinton a gagné le système populaire. Je pense qu'elle a eu plus de 1 million de votes que l'actuel président. Et d'ailleurs, pour expliquer cela, ça fait présidentiel aux États-Unis où c'est les démocrates qui gagnent le vote populaire.
Et pourquoi les Américains ont préféré le système du collège électoral au système du vote populaire?
Bon, ça c'est une question qui est au fondement même de la création de l'Amérique. Les États, comme je l'ai dit, il y a 50 États. À l'époque, il n'y avait pas 50 États. C'était pour donner un poids proportionnel qui ont été à la fondation de l'Amérique. D'aucuns disent que, en réalité, c'est la conséquence de l'esclavage aux États-Unis, c'est-à-dire pour donner certains États du Sud et certains États du Nord avec des poids différents. Mais en réalité, quand tu regardes aujourd'hui, c'est en fonction de la population de l'État. Les 538 sont répartis sur la base du recensement électoral qui se fait chaque 10 ans aux États-Unis. Donc, ce qui fait, qui détermine le collège électoral de chaque État.
Pour l'emporter, un candidat n'a pas donc besoin d'être majoritaire en voix au niveau national. Il doit gagner la majorité d'au moins 270 des 538 grands électeurs attribués au niveau des États. Les explications de Bagassi Koura.
Voici comment ça marche. Les quelques 230 millions d'électeurs votent pour élire 538 grands électeurs. Ces grands électeurs, à leur tour, vont se réunir le 14 décembre pour élire le président des États-Unis. Et ensuite, c'est au tour du Congrès de déclarer officiellement le vainqueur le 6 janvier, une sorte de certification de l'élection. Outre le collège électoral, cette certification du vainqueur de l'élection présidentielle implique le Sénat, la Chambre des représentants et les archives nationales. Ce processus de 4 mois est le résultat d'un compromis entre les pères fondateurs qui n'avaient pas confiance que les électeurs pouvaient par eux-mêmes choisir un bon dirigeant. Il ne croyait pas que le peuple américain devrait choisir directement le président et le vice-président, mais il ne voulait pas non plus donner au Congrès seul le pouvoir de sélection, affirme l'universitaire Amy Dassé, directrice exécutive de l'Institut d'études politiques Ciné à American University. Cette année, les experts électoraux prévoient que le dépouillement des bulletins de vote prendra plus de temps en raison de la pandémie de COVID-19 et du nombre accru d'électeurs qui ont voté par la poste. Une fois que les 50 États plus le district de Columbia ont compté tous les bulletins de vote, chaque gouverneur d'État dresse une liste électorale. Des copies de cette liste, connues sous le nom de certificat de vérification, sont soumises à l'archiviste des États-Unis, responsable des archives nationales. Ces grands électeurs se réunissent ensuite dans leur capitale d'État pour voter officiellement pour le président et le vice-président. Cela doit avoir lieu le premier lundi après le deuxième mercredi de décembre. Cette année, cette date tombe le 14 décembre. Les électeurs de chacun des États remplissent des certificats de vote et les envoient au Sénat américain, aux archives nationales et aux représentants de l'État. Une fois que cela est fait, le collège électoral n'a plus de fonction jusqu'à la prochaine élection présidentielle. La dernière étape de ce processus a lieu le 6 janvier 2021, lorsque le Congrès se réunit pour compter les votes électoraux et certifier officiellement le vainqueur. Ce processus est généralement cérémonial, mais il peut y avoir des objections, comme en 1969 et 2005, mais la Chambre et le Sénat avaient à l'époque rejeté les objections et les votes en question avaient été comptés.
Abdourahmane Dia avec vous. Au menu de Washington Forum cette semaine, la présidentielle américaine du 3 novembre. Avec nos analystes, nous reviendrons sur le déroulement du scrutin présidentiel, les résultats, les enjeux et son impact. Que peut-on retenir des courses au Congrès? Qu'est-ce qui a été déterminant dans ces scrutins? Quelle politique étrangère américaine pour les 4 prochaines années? Nous discuterons de tout cela avec nos invités ce jeudi 5 novembre à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Nous retrouvons encore une fois notre analyste Claude Porcella. Chaque vote compte, mais il y a ce système de collège électoral.
Oui, bien sûr, il a été très bien expliqué par les précédents intervenants. C'est un système que bien des Américains souhaiteraient voir disparaître et remplacé par le suffrage universel. Le premier à s'en être plaint était en fait Richard Nixon lors de sa première élection qui avait été très serrée. Mais depuis, chaque 4 ans, on se plaint de ce système qui n'est pas forcément très juste. Mais je doute, et je ne suis pas le seul, que cela prendra beaucoup, beaucoup de temps avant que le collège électoral disparaisse.
Alors, dans ce scrutin, il y a eu accumulation record de votes par courrier qui, dans certains États, pourront affluer jusqu'à plusieurs jours après mardi, donc après aujourd'hui. Et ça risque aussi de compliquer le dépouillement, voire retarder l'annonce d'un vainqueur si le résultat serait. C'est notamment la situation en Pennsylvanie, Claude.
Oui, absolument, parce que la Pennsylvanie a obtenu le droit de dépouiller les bulletins pendant 3 jours après l'élection. À partir du moment où les bulletins ont été postés avant minuit ce soir, ils seront acceptés pendant encore 3 jours, parce qu'il y a parfois des délais postaux et évidemment il ne semble pas correct que leur vote ne soit pas pris en compte. Donc il y a eu d'ailleurs toute une bataille juridique à ce sujet. La Cour de Pennsylvanie avait refusé, c'est allé jusqu'à la Cour suprême, et puis finalement, l'État a été autorisé à prolonger le dépouillement pendant 3 jours.
Merci Claude Porcella pour toutes ces explications, et c'est la fin de cette édition spéciale sur les élections américaines. Merci à Lionel Runanira Gahima qui a assuré la mise en onde. À la présentation, Eric Manirakiza. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour voir l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.